Délirium environnemental, deuxième partie. On parle maintenant d'un rapport du Bureau d'audience publique en environnement sur les levées sismiques effectuées dans le fleuve Saint-Laurent. Vous savez peut-être qu'on envoie des ondes justement dans le fond de l'eau pour savoir s'il y a du pétrole ou du gaz. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Pour en savoir un petit peu plus sur ce rapport-là, on a la chance de s'entretenir avec Philippe Daigle. Philippe Daigle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM et également chef naturaliste au parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Monsieur Daigle, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui des levées sismiques dans le Saint-Laurent et du rapport justement du Bureau d'audience publique. C'est important peut-être d'aller, avant d'aller un petit peu plus loin, de nous rappeler, Philippe, parce que vous pouvez nous rappeler justement, c'est quoi ce contexte-là? Pourquoi on en est rendu à avoir un rapport sur des levées sismiques dans le fleuve Saint-Laurent?
Belle approche. C'est important de remettre ça dans le contexte, je pense, parce que en fait, ce rapport-là, il consiste à faire un bilan des pour et des contre sur les levées sismiques en proprement dit. Par contre, chercher du pétrole au Québec, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait plus de 100 ans, en fait, qu'on cherche du pétrole au Québec. Entre 1960 puis 1983, on s'est amusé à faire des relevés sismiques dans le fleuve, c'est-à-dire envoyer des ondes de choc dans le fond de l'eau pour essayer de voir s'il n'y a pas des réserves de gaz naturel, principalement dans le fleuve Saint-Laurent. À partir des années 80, bien, on a comme fait que c'était peine perdue, on a avoué que c'était peine perdue et on a cessé ça comme pratique. Par contre, il y a une bande de joyeux lurons qui ont développé de meilleures techniques et en 2003, en fait, sur l'île d'Anticosti, ils se sont rendus compte qu'il y avait un gisement sous la terre qui était absolument fabuleux. Le gisement, c'est le gisement Albion Scipio pour les fanatiques. Et ce gisement-là, en fait, s'étend jusqu'à l'État du Michigan. C'est,
wow.
c'est immense, là. Ça a vraiment remis le cas du pétrole sur la table. Et entre autres par un des sondages qu'on a fait à Old Harry, qui est plus célèbre, où on a trouvé quelque chose qui ressemblait à 140 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est assez pour alimenter Québec au complet pendant 20 ans. Fait qu'on comprend qu'il y a des intéressés, là.
Québec au complet pendant 20 ans. Et c'est justement, bizarrement, Hydro-Québec qui s'en est mêlé récemment, qui a décidé qui voulait faire de l'exploration sismique dans le fleuve Saint-Laurent, plutôt dans le golfe. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là?
Ben pour faire un petit rappel, en fait, c'est le 27 novembre 2002 que le directeur général d'Hydro-Québec, André Caillé, a rendu public le plan d'exploiter, de faire de l'exploration pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent, puis il prévoyait investir 330 millions de dollars d'ici 2010.
Ça, c'est Hydro-Québec, c'est pas André Caillé de sa poche, là.
Non, en fait, c'est Hydro-Québec, tout à fait.
Quoi qu'il pourrait, probablement.
C'est dans le temps qu'il était pour Hydro-Québec, pas pour gaz métropolitain, hein?
Il y a quand même un certain mélange, même à l'époque, je crois. Puisque, en fait, c'est dommage parce que Hydro-Québec, qui était l'enfant chéri là, des Québécois, s'enlise tranquillement. Et puis, comme le disait si bien La Rochefoucauld, la vertu se perd dans l'intérêt comme le fleuve se perd dans la mer.
Oh, c'est beau, hein? Oui. Mais, à première vue, ça semble simple, faire de l'exploration, de faire éventuellement, justement, de l'exploitation. Mais paraît-il que c'est un petit peu plus complexe, entre autres parce qu'on parle peut-être du fédéral, du provincial là-dedans. Quelque chose qui se mélange entre les deux. Là. Le fond de l'eau est au fédéral, l'eau est au provincial, c'est pas clair.
En fait, c'est l'opposé.
C'est pas clair.
En gros, ce qu'on peut dire par rapport à ça, tu m'amènes sur un autre sujet, mais ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que l'eau au Canada est une propriété fédérale, alors que le fond du fleuve est vraiment une propriété provinciale. Donc, exploiter le pétrole, ça demande une jonction entre les deux paliers de gouvernement. Ce qui a été fait, entre autres, dans la mise en œuvre du parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour faire une zone de protection. Par contre, pour exploiter le pétrole, là, on parle vraiment d'un gain substantiel là, en argent. Là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Donc, chacun va tirer sur son bord de couverture pour essayer de diviser, en fait, le système en plusieurs parties, ce qui est un peu contradictoire. Là.
Donc, Hydro-Québec faisant partie d'un de ces acteurs-là a tiré sur la couverture. La population en général semble s'être levée. Ça, je crois que c'est en février passé. Et suite à ça, le ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair, à l'époque, a dit « Moi, je touche pas à cette patate chaude-là. J'envoie ça au Bureau d'audience publique en environnement qui va nous faire un rapport sur les fameux relevés sismiques. Qu'est-ce que ça peut faire sur l'environnement? »
Effectivement, puis ça s'est fait assez vite. Il y a eu une levée de bouclier imposante, là, en fait. fait, de la part des écolos qui sont emballés, puis avec raison, hein. Il y avait déjà des moratoires faits un peu partout par rapport à l'exploitation pétrolière extra-côtière. Qu'on pense à la Colombie-Britannique, aux États-Unis, au Costa Rica, au Danemark ou à l'Australie. Tous ces endroits-là, en fait, ont décrété hors de tout, c'était hors de question pour eux d'avoir du développement extra-côtier avec le pétrole. Donc, c'est bien entendu, les Québécois ont vite sauté sur le sujet. Pourtant, il y a un monsieur Paul Enarson, je m'excuse de massacrer son nom, de Geological Service Incorporated, GSI, la compagnie qui est le promoteur, en fait, que lui, il rétorque que faire l'exploitation du gaz dans le fleuve Saint-Laurent, ça va permettre d'avoir moins de pétrolier en circulation, ça va permettre plus d'indépendance énergétique au Québec, puis, en fait, une économie beaucoup plus forte au Québec, ce qui est pas fou. En fait, ça a lancé tout un débat, puis sans évidence scientifique. Donc, c'était un débat qui était très émotif.
C'est ça qui a été porté
devant le BAP.
Spécifier GSI, un nouvel acteur qui rentre là-dedans. On parlait entre autres d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que fait GSI par rapport à ça?
GSI est tout simplement mandaté par Hydro-Québec pour faire l'exploration, c'est-à-dire ils s'en vont avec des canons qui lancent des centaines de décibels dans l'eau et ils vont tout simplement voir à quoi ressemble le fond, le sous-sol du Saint-Laurent.
Parce que depuis 40 ans, Hydro-Québec acquérit une expertise en hydroélectricité et non pas en exploration gazière.
Peut-être le répéter et parler de l'éolien. Mais bon, on y revient peut-être à ce fameux rapport du Bureau d'audience publique. Simplement pour exposer, qu'est-ce qu'on étudie dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir là-dedans, c'est quoi les impacts à quelque part, c'est-tu le fond, la croûte terrestre qui va exploser, sûrement pas, est-ce que c'est justement les mammifères marins ou peut-être parler de ces impacts-là, qu'est-ce qu'on cherchait à savoir avec ce bureau-là?
Effectivement, le rapport du BAP en fait était sur les enjeux liés au lever sismique, donc c'est une toute petite partie du dossier en fait, c'est vraiment juste la partie exploration, on se demandait en fait quels vont être les impacts, les enjeux sociaux économique aussi. Et les trois plus grandes craintes qui ont été ressorties de ça, c'est une crainte par rapport aux mammifères marins, une crainte par rapport à l'impact sur les pêcheries, bien entendu, qui fait vivre à peu près toute la région où ça va se passer, et un impact sur le tourisme puis l'image du fleuve Saint-Laurent.
Peut-être rajouter justement les mammifères marins, c'est sûr que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Mammifères marins, je pense entre autres qu'on a des espèces qui sont particulièrement menacées dans ce coin-là.
Oh ouais, c'est sûr qu'il faut mentionner que les relevés vont se faire dans une zone où il y a quand même des rorquals bleus puis des phoques communs qui pataugent, donc deux espèces là, menacées. C'est dans cette zone-là précisément qu'il va y avoir des explosions et qu'il y a déjà eu des explosions. Hein. Faut préciser que ça a déjà commencé là, l'exploration pétrolière. Puis malgré que le BAP était en train de faire ses audiences un peu partout, en août dernier, il y avait encore des explosions là, dans le fleuve Saint-Laurent, entre les Escoumins puis Pointe-des-Monts, donc juste à côté du parc marin.
Et ça, c'est Hydro-Québec, je crois, qui faisait ça.
Oui. Donc, c'était... en fait, ça, c'était, si je me trompe pas, INRSO. Océanographie. Ouais, INRS Océanographie qui était mandatée par Hydro-Québec.
Bravo. Beau respect pour notre bureau d'audience publique en environnement. Donc, la table est mise, on comprend où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. Les recommandations s'en viennent tout de suite après cette petite chanson. Retour à Délirium environnemental, toujours avec Philippe Daigle, chef plongeur. Est-ce que je dis la bonne chose?
Non, pas du tout, mais en
naturaliste,
fait...
j'aurais dû dire.
Ça fait pas la vaisselle.
Et passionné du Saint-Laurent.
Il fait de tout. Il connaît très bien le dossier. Il vient nous parler justement de ses recommandations-là sur y a-tu du gaz dans le fleuve puis du pétrole, puis est-ce qu'on devrait ou pas en chercher? Bureau d'audience publique en environnement, c'est très sérieux, même si on semble ricaner avec cela. Il y a des fameuses recommandations. Parlons de ce rapport.
En fait, du gaz, il y en a probablement énormément en dessous du fleuve. Il y a peut-être d'autres questions à se poser, mais on y reviendra. En fait, par rapport au rapport du BAP, bien entendu, le promoteur GSI a rétorqué par un papier, bien entendu, qu'a donné à la commission et selon le groupe Attention Fragile que vous connaissez sûrement, ce papier devrait être classé non pas comme rapport scientifique ou comme étude d'impact, mais comme un document d'introduction générale et revue partielle de littérature portant sur quelques enjeux liés au levé sismique. En fait, ils ont tout simplement pas fait leur devoir. C'était vraiment un rapport là, vraiment très sommaire.
Donc, c'est le rapport qui est déposé au bureau d'audience publique.
Exactement, par le promoteur.
Ce sur quoi ceux qui siègent au bureau d'audience publique vont se baser pour analyser.
Exactement. Et le BAP a donné des recommandations qui ont été applaudies par la plupart en fait des participants, dont entre autres M. Robert Michaud là, du GREM qui a donné une entrevue à D'un soleil à l'autre.
Le GREM étant un groupe de recherche en écologie des mammifères marins.
Exactement.
Et ils ont un site web, on vous invite à aller le voir. Passez par notre www.radiodrm.net. Vous allez avoir le lien baleine en direct. Tous les détails sur ce qu'on est en train de parler, l'exploration gazière et pétrolière dans le fleuve.
Et la coalition fragile aussi des Madelinos des îles de la Madeleine.
Exactement. C'est probablement la meilleure revue littérature que vous pouvez avoir sur le sujet. Baleine en direct. Alors, les recommandations du BAP dans tout ça. Le BAP a fait trois recommandations principales qui sont des recommandations tout à fait classiques, en fait. C'est faire une liste des... liste de mise à jour des connaissances parce que on n'en sait pas assez sur le sujet, bien entendu, et trouver des mesures d'atténuation, ça c'est aussi parce qu'on ne connaît pas bien. Donc c'est sûr qu'il y aura toujours des incertitudes et là la question se pose comme à chaque audience publique, est-ce qu'il faut arrêter tout jusqu'à ce que la science ait fini d'investiguer? Mmh. Bien entendu, la réponse c'est ça se peut pas, parce que la science en fait pose des questions, ne répond la plupart du temps ne répond pas aux questions, donc ça va être infini si on fait dans cette démarche-là. Donc, les deux premières recommandations du BAP sont applaudies parce qu'elles font sauver du temps. Par contre, c'est pas nécessairement, selon moi, ça c'est un avis tout à fait personnel, c'est pas nécessairement toujours constructif. Là, comme,
Et c'est quoi la troisième?
Et la troisième, c'est de s'assurer qu'il y ait un cadre légal autour de l'exploration pétrolière. Et ça, c'est super intéressant parce que il n'y a pas de cadre légal par rapport à ce qu'on se disait. On ne sait pas à qui appartient la ressource. Et là, tout le monde se chamaille à savoir comment ça va se passer et tout et tout.
Donc là, on voudrait spécifier tout ça. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce, on s'attend à ce que le ministre de l'Environnement fasse des recommandations suite à ça. Qu'est-ce que ça dégage? Je veux dire, faire des études, mesures d'atténuation, définir un cadre légal, ça veut dire qu'on va faire des études, puis après on va faire l'exploration gazière. C'est à peu près ça que je comprends. Là.
Oui, on peut le voir comme ça. En fait, certains ont dit que c'était tout simplement une façon pour le promoteur d'arriver à faire un dossier avec des mesures d'atténuation qui étaient cohérentes pour le grand public, puis que le projet allait se faire de toute façon.
Il y a un détail dans ce rapport qui est par contre intéressant. En fait, je crois que tu mentionnais, ou si tu ne l'as pas encore mentionné, tu vas sûrement le mentionner. Ce fameux rapport-là arrive avant même qu'on se pose la question, est-ce qu'on veut exploiter les hydrocarbures au Québec? Et on a une commission parlementaire sur la sécurité énergétique qui s'en vient cet automne. Et là, on est avec un rapport du bureau du BAP sur une exploitation potentielle. Est-ce que, mais en fait, dans le rapport, on mentionne on devrait faire de cette commission parlementaire-là une des tribunes idéales pour discuter de cette question-là québécoise.
Oui, complètement. C'est sûr et certain. En fait, on s'empresse de vouloir faire cracher des réponses à la science. Qu'est-ce qu'on peut faire des relevés sismiques, etc. Alors que personne ne s'est assis pour poser une question valable, en fait, de prendre le temps de poser la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment mettre en valeur les hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent? C'est ça qui est la vraie question. Et elle est abordée au chapitre 4 du rapport, heureusement, où on se demande quel développement effectivement on veut faire. Donc, une des recommandations du BAP, c'est lucidement, c'est la commission souhaite que la commission parlementaire sur la sécurité énergétique du Québec, annoncée pour cet automne, et le futur forum sur la gestion intégrée du Saint-Laurent, prévu dans le cadre de la politique de l'eau, traite des enjeux liés à la mise en valeur éventuelle des hydrocarbures extracôtiers du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est intelligent de la part du BAP d'avoir relancé la balle dans des forums plus larges où il y aura peut-être un cadre légal plus imposé.
Mais avec ces prises de position-là, c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut utiliser le rapport du BAP comme un outil pour dire, écoutez, faut vraiment pas faire d'exploration dans le fleuve? Je sais que ça dénote de l'apport assez petit du BAP en général, vu que c'est toujours du cas par cas. On se retrouve à explorer seulement l'avenue exploration et non pas exploitation en général. Mais est-ce qu'on peut quand même se servir du rapport du BAP pour dire, là, on veut pas d'exploitation dans le Golfe?
Oui, effectivement, ça va servir comme arme. Ça, c'est sûr et certain pour ceux qui sont contre le projet. Ça, c'est sûr, parce que le BAP, en fait, reconnaît deux choses principales. Il reconnaît le caractère spécial du fleuve Saint-Laurent comme étant une entité absolument... partie du patrimoine québécois, canadien. Et aussi, en fait, il reconnaît le danger de faire de l'exploration, puisqu'il fait des recommandations sur le relevé sismique et il préconise l'approche de précaution.
Donc, entre autres recommandations, je crois qu'on fait allusion également aux aires protégées. Aires protégées, on entend souvent parler d'aires protégées terrestres. Au niveau marin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, étant donné que vous êtes bien placé pour en parler?
Eh oui, merci d'aborder le sujet. En fait, ça me permet de vous dire que le Québec et le Canada, en fait, traînent un peu de la patte là, dans le dossier.
Un peu, beaucoup, énormément.
Entre un peu et beaucoup.
Pardon? Point de vue mondial?
Non, quand même pas. Disons que depuis 2002, il y a eu la loi sur les aires marines nationales de conservation qui a été passée et qui visait à protéger 29 espaces spéciaux parce qu'on a quand même le pays avec le plus de côtes au monde. Ça, on l'oublie parfois. Mais donc, on voulait protéger 29 territoires de la mer adjacent au continent. Et là-dessus, ben, on a simplement deux endroits où il y a eu un parc de fait. C'est-à-dire Fathom Five en Ontario et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent au Québec, qui est un parc fabuleux. Là.
2 sur 29 qu'on est censé avoir.
Exactement. Ça, ce sont seulement des parcs à l'intérieur de zones. Il peut y avoir plusieurs parcs par zone.
Vous êtes très gentil de dire qu'on traîne un peu, beaucoup. En fait, quoi? Un petit peu?
Entre un peu et beaucoup.
2 sur 29, c'est énormément.
Mais à l'intérieur de ce parc-là, disons que beaucoup de travail à faire.
D'accord. Donc, ouais. En conclusion, qu'est-ce qu'on pense de ce rapport-là en tant que scientifique que vous êtes?
Ben, en fait, moi, je trouve que le rapport du BAP montre clairement qu'on a besoin d'un changement de paradigme dans la gestion politique. Ça, c'est clair, net et précis. On essaye de trouver des réponses par la science, alors qu'on devrait plutôt poser des questions par l'éthique. Il n'y a pas de position éthique qui est prise par rapport à ça. Donc, dans ce cas-là, la science devient vraiment une poule avec la tête coupée qui court dans tous les sens et on se félicite de faire courir la poule encore plus vite. Donc ça, c'est complètement illogique. Alors, il faut prendre une position bien en amont de la science pour la contrôler, justement, pour la faire aller où on veut. Et moi, ma position, elle est claire, nette et précise. Je descends dans le ventre du Saint-Laurent toutes les semaines dans le parc marin pour aller nourrir un loup atlantique et je suis en amour avec le fond du Saint-Laurent. C'est tout ce que ça me prend pour prendre position contre le projet. Et à partir de là, je vous trouverai tous les arguments scientifiques qu'il faut...
On revient après la pause, c'est trop intéressant.
C'est fait. Le bien est de plus en plus absent de ce monde. La moralité recule à chaque seconde. Mais contre vents et marées, il subsiste un bastion où il n'y a ni racisme, ni haine, ni pollution. Chez McDonald's, aucune discrimination. Les noirs comme les blancs et les jaunes qui remplissent le bedon. Les gens de toute race en harmonie mastique, rassemblés autour d'un cabaret en plastique. Et depuis que le clown vêtu de rouge et de jaune a renoncé à ses contenants en styrofoam, quand tu vas manger dans un de ces restaurants, tu poses un geste profond profitable à l'environnement. Le clown Ronald devance toujours tes pensées. Lorsque tu es à la fois affamé et pressé, tu entres au McDo, ton cœur exulte. Ton Big Mac déjà cuit est là déjà depuis plusieurs minutes. Inspire une peur maladive. Toi qui n'as jamais été plus loin que le quart de livre. Dans une société où le chômage est roi, il n'y a que McDonald's pour t'offrir un emploi. Tu es vêtu de loque, tu es un refus. Ronald te passe la porte, tu vas encore des vues. Oh! Mais ce paradis pour les hommes qui ont faim est menacé et tire sans doute à sa fin. Car parmi ses employés circule une contamination, la pire qui soit, celle de la syndicalisation. Évidemment, ce ne sont pas là de des emplois faciles. Mais la vie est une jungle où survivre est difficile. Dans un monde où l'on veut toujours tout cuit dans la bouche, McDonald's nous apprend à mériter le salaire qu'on touche. Donc, au plan culinaire comme au plan social, le clown Ronald propose un noble idéal. Moins de syndicats, plus de McDo, plus de travail et moins d'assistés sociaux. Regarde dans les cuisines du restaurant américain, ce sont en gestation les élites de demain. Rêve, cette vision profonde au soleil des conventions collectives risque de fondre.
Je pense que vous avez pas compris, mais vous avez été élu l'employé de la semaine, mon oncle.
Ah oui, bon, ben... Moi, je n'ai pas besoin d'accréditation syndicale, moi.
Mon oncle Serge aime McDonald's, c'était lui. On est de retour à Délire environnemental. On termine avec Philippe Daigle rapidement, ce chef naturaliste au parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Pourquoi, dans le fond, Philippe Daigle semble si passionné? Il va vous expliquer un petit peu comment vous pourriez avoir la piqûre de cela, vous aussi.
En fait, c'est très simple. L'été prochain, vous devez d'aller aux Escoumins, 20 minutes passées Tadoussac, en fait, lorsque vous allez voir les baleines. Arrêtez aux Escoumins, centre de découverte du milieu marin, et notre équipe va descendre dans le fond d'eau avec des caméras en direct. Vous allez pouvoir les voir, leur parler, guider la mission de plongée sous-marine. C'est une expérience vraiment sensorielle, unique, là, où vous allez vous-même dans le fond du fleuve. Vous pouvez pas, par la suite, être insensible à tout ce qui se passe avec votre fleuve. Ça va devenir votre fleuve, vraiment. Vous allez le sentir, le vivre.
Pour l'avoir fait, cette expérience, je renchéris, il faut vraiment le faire, parce que vous allez voir le fleuve d'une autre façon que penser que c'est pollué et que c'est laid. C'est admirable. Monsieur Philippe Daigle, chef naturaliste au parc marin Saint-Laurent, Saguenay-Saint-Laurent, pardon. Merci beaucoup. On a peu de temps, on se lance dans nos coups de cœur, coups de masse, parce que ça l'a fait.
Ben, merci beaucoup.
Eh bien, je commence avec un premier coup de masse. On vous a parlé de Esso tout à l'heure, ExxonMobil, qui continue à émettre des gaz à effet de serre toujours de façon plus gigantesque. Eh bien, il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui augmentent. L'Impérial, eh bien, qui souligne ses bénéfices financiers nets de 539 millions de dollars pour le dernier trimestre. En trois mois, ils ont fait 500 millions de pénotes.
Presque autant que le gouvernement du Canada, ça?
Un beau coup de cœur à la coalition de groupes contre les OGM, Greenpeace, Union Paysanne, Union des consommateurs, Équitaire, le Conseil des Canadiens, qui se sont mis ensemble pour déposer une pétition de 30 000 noms au gouvernement fédéral pour dire, écoutez, on veut l'étiquetage des OGM, on veut un moratoire sur l'introduction de nouveaux OGM, puis on veut s'assurer de savoir de quoi qu'on parle quand on parle d'OGM.
Et bien... Coup de masse, imaginez-vous donc, pour la ville de Montréal. Montréal considère que le code de la route du ministère des Transports ne s'applique pas à lui. Et au détriment des piétons, on laisse les autos se stationner à moins de 5 mètres des passages à piétons, ce qui peut provoquer des situations dangereuses. Qu'est-ce que vous faites, Montréal, là?
Ben, coup de masse à tous les automobilistes qui n'ont pas de respect pour les piétons et pour les cyclistes. Mais là, je veux faire un sacré coup de masse au gouvernement fédéral. On parle d'un remboursement de 60 milliards sur la dette au cours des 7 dernières années. Pendant ce temps-là, on n'investit pas en environnement. Pourquoi on met ça sur la dette? On dit qu'on veut pas empiéter le futur des générations futures en leur laissant une grosse dette. Puis en scrapant votre environnement, qu'est-ce que vous pensez que vous faites?
Eh bien, je continue dans la même lignée. Gouvernement, que vous soyez fédéraux, provinciaux, municipaux, sortez de votre immobilisme. Les exemples cette semaine, Belledune, Bennett, ça marchera peut-être pas suffisamment parce qu'on n'a pas assez de boîtes contaminées à gérer. Puis vous avez laissé construire ça. Les OGM, on vous dit tout et bas, tous les côtés, qu'on veut avoir un étiquetage obligatoire. Vous faites rien. Éolien, même les verts se mettent à parler d'argent, puis vous réagissez pas. Sortez de votre cocon puis allez voir ce qui se passe dans votre pays.
Je me permets un coup de cœur pour le journal de Montréal. J'ai pas le choix.
Pour les couvertures
médiatiques sur la situation de la forêt au Québec, je lève mon chapeau. Ils sont allés chercher Richard Bergeron. C'était du sensationnalisme, mais au moins, ça fait jaser du
Richard sujet. Richard
Desjardins. Et qu'est-ce que j'ai dit?
Bergeron.
Hop, calme.
Un petit billet, là. Et voilà.
Richard Desjardins.
Merci. Richard Bergeron. Est-ce que c'est le président de Projet Montréal?
Oui.
Exactement. Eh bien, je vous en parle. Projet Montréal, félicitations. Ils ont distribué au métro beau bien des passes, des fausses passes, de la CAM, des passes d'autobus métro à 40 $ pour mettre de la pression parce que c'est un nouveau parti politique, Projet Montréal, et c'est leur plateforme pour avoir justement une réduction des prix du transport en commun.
coup de cœur pour M. Percy Schmeiser. Vous vous rappelez, le gars qui s'est fait planter par Monsanto. Eh bien, il se retrouve de nouveau devant les tribunaux, cette fois-ci pour défendre sa femme, qui poursuit la compagnie en cours des petites créances pour 140$, mesdames et messieurs. La Cour suprême a reconnu que l'entreprise avait le droit de contrôle de sa plante modifiée. Eh bien, M. Schmeiser veut prendre la compagnie au mot.
Eh bien, coup de cœur, vous irez voir sur notre site internet, il y a un concours de photos du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le concours de photos, vous pouvez gagner 20 000$, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les anciens concours de photos, ces belles photos-là de l'environnement. Autant l'environnement destroy, pollué, problème, que l'environnement magnifique, vierge et pas touché par l'être humain.
Eh bien, coup de cœur, quand on vous parle de bouffe bio, peut-être que vous pensez que ça veut dire de manger du tofu puis des graines à longueur d'année, mais il y a d'autres choses que la bouffe bio produit d'être très intéressant et qui permet d'oublier un peu les mauvais sorts.
Tofu, c'est pas bio.
Non, j'avoue. Mais donc, il y a plein de choses qui peuvent être oubliées. Eh bien, il existe du cognac bio. Eh bien, oui, la France qui s'est lancée dans le commerce du cognac bio. Présentement, c'est essentiellement les pays qui reconnaissent la cause de l'environnement, c'est-à-dire la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, qui en boivent. Mettez des pressions sur la SAQ pour qu'on ait notre propre cognac bio.
Il y a plusieurs vins bio, hein, si vous voulez acheter, sont abordables. Et toujours intéressant, français et italien. J'annonce deux conférences sur le commerce équitable. Une conférence qui va se tenir à l'UQAM, enjeux politiques, développement alternatif et réalité commerciale à propos du commerce équitable, 29 octobre à 12h45. Ça va être au DSR 520, donc à l'UQAM. Et puis, une autre conférence sur le commerce équitable, cette fois-ci, commerce équitable ou commerce engagé, rencontre avec des producteurs de café du Chiapas le 30 octobre à 6h au Café Rico. C'est le 969 Rachel S. Ça vaut la peine de se déplacer, un sujet extrêmement passionnant.
Coup de masse à M. Dion qui nous a déclaré lundi passé qu'il ne voyait pas l'utilité de tenir un débat sur la question de savoir si le Canada pourrait atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Eh bien, aujourd'hui, monsieur, vous avez de la business sur les épaules.
Vous aurez déduit que M. Dion, c'est pas le père de Céline, mais bien le ministre fédéral de l'Environnement. Conférence de Michel Chossudovski. Mondialisation de la pauvreté, nouvel ordre mondial, un des problèmes en environnement, c'est entre autres cette pauvreté mondiale. C'est à l'UQAM, jeudi 28 octobre, 19h. Pardon, c'est au Centre Saint-Pierre, 19h. Sinon, allez voir sur notre site net dans le calendrier, il n'y a pas de problème, vous allez le voir. Coup de masse à ce... Wow! Expérience de vie cette semaine, je rencontre quelqu'un sur la rue qui laisse son véhicule rouler, j'ai dit, monsieur, vous devriez peut-être éteindre votre véhicule pendant que vous n'êtes pas dedans, ça serait intelligent. Il dit, écoute, mon jeune, toi, t'as pas compris, moi, je travaille en environnement. Aïe, j'ai pas compris, justement. C'est malheureusement sur cette poche note qu'on doit se terminer. Et bien, écoutez, c'était Delirium Environnemental, Patrick Bonnet au micro, en compagnie d'Étienne Côté-Paluc à la mise en onde. Et ici au studio, Hugo Lachapelle, Nicolas Mainville, Nicolas Milo. Merci à Philippe Daigle, notre invité. Vous pouvez voir sur notre site web www.radiodelirium.net, nous écrire, nous envoyer des fleurs, nous envoyer de l'argent aussi. On accepte les dons, gênez-vous pas, proposer des événements. On n'accepte pas les virus, par contre, sur notre site web. Également, bulletin d'info intéressant, allez voir, allez vous renseigner là-dessus. La semaine prochaine, Éric Darrier vient faire le tour sur les OGM. On en parle des OGM. Mais là, on a le spécialiste en studio la semaine prochaine.
La Bible du transgénique.
Et bien, sur ces belles paroles, bonne semaine.
Hey, les gars, vous rappelez-vous que le Québec, c'est doté d'une stratégie...